La victoire de l'Espagne dimanche sur l'Argentine clôt un mondial de football inédit. Inédit par le nombre d'équipes en lice, 48 au lieu de 32. Inédit par les pauses hydratation, l'une des nouveautés de ce mondial, mais aussi par les records qu'elle a battus. Car la Coupe du Monde 2026 a été la plus polluante, la plus chère, mais aussi la plus rentable économiquement de l'histoire du football. Une Coupe du Monde de tous les records qui a également enchaîné les controverses, certaines avant même le coup d'envoi. Ce Mondial 2026 pourrait-il avoir franchi la ligne rouge, comme le dénoncent certains? Et au-delà du sport, quelles leçons tirer? Dans la deuxième partie de ce podcast, je poserai la question à Séguir Lazeri, sociologue du sport au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis Céline Sonnois-Alaïa, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. Son arrivée n'est pas passée inaperçue. Donald Trump aborde Marine One, l'imposant hélicoptère de la Maison-Blanche, survolant dimanche New York et le MetLife Stadium quelques minutes avant le coup d'envoi de la finale. Argentine-Espagne, le dernier match du Mondial de football et le premier auquel assiste le président américain. La Roja l'emporte 1-0 après prolongation. Quand le président américain s'avance sur la pelouse pour remettre le trophée au vainqueur aux côtés du président de la FIFA Gianni Infantino, un concert de huées et de sifflets s'élève des tribunes du stade bondé. Le chef de la première puissance mondiale fait fi de la clameur et s'avance sur la scène, tout sourire. Il y est, il y reste, y compris quand le capitaine espagnol fait signe à Donald Trump de céder la place pour la photo finale. Donald Trump refuse de descendre du podium et il est toujours là quand les joueurs brandissent leurs trophées comme les vainqueurs le font traditionnellement. C'est Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui finit par tirer la manche du président américain pour que celui-ci laisse la lumière au champion. Image gênante qui clôt une Coupe du Monde émaillée de controverses. Car avant même le coup d'envoi, un arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan, désigné meilleur arbitre africain de l'année 2025 et fierté nationale, pourtant détenteur d'un visa en bonne et due forme, est interdit d'entrer sur le territoire américain. Il est interrogé pendant 11 heures par les services d'immigration américains avant d'être renvoyé en Somalie. À son retour, il est accueilli en héros.
Nous devons nous battre pour notre pays et le défendre. Nous ne devons jamais être découragés. Les jeunes ne doivent pas perdre espoir. Je suis toujours prêt à poursuivre mon chemin malgré ces difficultés. J'aime mon pays et j'encourage les jeunes à continuer de poursuivre leurs objectifs si Allah le veut. Merci.
Pour comprendre le contexte, rappelons que Donald Trump a dénoncé fin 2025 la présence de migrants venus de pays de merde aux États-Unis, citant notamment la Somalie. C'est un pays arriéré, probablement le pire, selon ses mots. Du côté de la FIFA, la réaction est discrète. Un communiqué confirme que l'arbitre Omar Abdulkadir Artan ne pourra ni s'entraîner ni officier lors de la Coupe du Monde 2026. Interrogé lors d'une conférence de presse, Gianni Infantino, le président de la FIFA, se défend. Il explique qu'il ne représente qu'une organisation sportive, qu'il n'est pas le roi du monde et qu'il ne peut régner sur les gouvernements et les forces de police.
Of course, it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee.
Bien sûr, ce qui est arrivé à Omar, l'arbitre somalien, est regrettable. Mais encore une fois, nous ne maîtrisons pas tout. Nous essayons, nous discutons, nous échangeons, nous avisons. Parfois, il est bon aussi de simplement se détendre, décompresser. Nous travaillons sur tous les fronts, nous essayons de tout résoudre. Parfois, se mettre immédiatement à crier et à s'emporter produit l'effet inverse de la recherche d'une solution. Croyez-moi, ou non si vous préférez, mais nous essayons toujours de trouver une solution. Toujours.
Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions.
Autre controverse, le traitement réservé à l'équipe iranienne en pleine guerre avec les États-Unis. Impossible pour cette sélection de séjourner sur le sol américain. Son camp de base est établi à Tijuana, au Mexique, à la frontière américaine. Une équipe sous haute sécurité, comme en témoigne le journaliste de RMC envoyé sur place.
L'équipe iranienne qui a posé ses valises ici dans cet hôtel que vous voyez juste derrière moi, un hôtel fortement sécurisé par la garde nationale. En permanence, des hommes cagoulés et armés, lourdement armés, protègent l'équipe iranienne. Vous voyez sur ces images juste derrière moi, la garde nationale qui a donc été déployée pour protéger l'ensemble des déplacements de l'équipe iranienne, cet hôtel, mais aussi protéger son centre d'entraînement qui se trouve à quelques minutes d'ici. On a même vu ce matin des représentants de l'équipe iranienne aller voir ce centre d'entraînement et pourtant il y a seulement 3-4 minutes en voiture, 4 ou 5 camions de la garde nationale se sont mis en marche pour protéger ce déplacement hautement important, hautement symbolique pour les premiers pas de la délégation iranienne sur le sol mexicain.
Les autorités américaines obligent les joueurs iraniens à effectuer des allers-retours pour chacune de leurs rencontres et refusent d'accueillir certains membres du staff. Pour son premier match contre la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne ne peut arriver que la veille à Los Angeles et doit repartir immédiatement après le coup de sifflet final. L'équipe la plus opprimée de l'histoire de la scène internationale, dénonce le sélectionneur iranien. La Fédération iranienne de football annonce d'ailleurs porter plainte auprès de la FIFA. Il n'y a pas que la Somalie et l'Iran qui reçoivent un traitement particulier. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les membres de l'équipe sénégalaise en train de se faire fouiller directement sur le tarmac de l'aéroport dès leur sortie de l'avion. Pour ceux de la délégation ouzbek, eux aussi fouillés, c'est à leur descente du bus juste avant un match amical. Des chiens renifleurs et des détecteurs de métaux inspectent minutieusement l'équipe et ses bagages. Pas mieux pour la sélection irakienne. L'attaquant vedette est retenu près de 7 heures à son arrivée à Chicago, tandis que le photographe officiel de la sélection se voit refuser l'entrée sur le territoire malgré un visa valide. Et puis, il y a l'affaire Balogun. Lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain Folarin Balogun écrase ses crampons sur le mollet d'un joueur de l'équipe adverse avant de prendre sa cheville en étau. L'arbitre sort le carton rouge. En principe, ça signifie l'expulsion du joueur pour le match suivant. C'est sans compter Donald Trump qui demande un réexamen du carton rouge.
Ce que j'ai fait, c'est demander un réexamen parce que je ne pensais pas que c'était une faute. Je pensais que c'était deux grands athlètes qui se sont heurtés et se sont emmêlés. Ce n'était pas un gars qui frappait quelqu'un au visage ou quoi que ce soit, qui serait différent. Je ne crois pas qu'il ait pris la décision. Je pense que c'était un comité qui a pris la décision et ils ont pris la bonne décision parce que d'abord, ce n'était pas une faute. Et ensuite, vous voulez tous voir un match avec vos meilleurs joueurs. Je pense que la décision de l'arbitre était horrible et personne n'en parle. Il parle du carton rouge comme si c'était normal. La décision de l'arbitre de donner un carton rouge, je ne savais même pas ce que c'était un carton rouge. Quand je l'ai découvert, je me suis dit, vous rigolez ?
Le coup de téléphone de Donald Trump à Gianni Infantino suffit à faire annuler la sanction. Folarin Balogun pourra bien disputer le match de huitième de finale face à la Belgique. Pierre Rondeau, économiste du sport à la Fondation Jean Jaurès pour BFM2.
On est vraiment sur l'idée que Donald Trump se sert du football, se sert de la FIFA, se sert de la Coupe du Monde pour ses propres intérêts et que Gianni Infantino laisse tout passer, même pire encore, il laisse tout passer, mais il est vraiment dans le service rendu au président nord-américain, au président états-unien. C'est vraiment ici une totale ingérence.
Faut-il rappeler qu'un prix de la paix taillé sur mesure a été remis à Donald Trump en décembre dernier par Gianni Infantino pour consoler le président américain de ne pas avoir reçu le prix Nobel. Le scandale est international. La Fédération belge fait appel. Elle estime que la levée de la suspension de Folarin Balogun pourrait présenter un risque pour les principes fondamentaux du fair play dans le football. Le ministre belge des Affaires étrangères juge incompréhensible la décision de la FIFA. La secrétaire d'État allemande au sport déclare que la politique n'a pas sa place sur le terrain. Pour le commissaire européen à l'équité intergénérationnelle, à la jeunesse, à la culture et au sport, influencer les décisions sportives reviendrait à porter atteinte à l'autonomie du sport. Et pour l'UEFA, la Confédération européenne de football, une ligne rouge a été franchie. L'autre sujet clivant de ce mondial, ce sont les pauses hydratation, l'une des nouveautés de cette compétition. La FIFA a décidé d'introduire ces pauses de 3 minutes dans tous les matchs de la Coupe du Monde, quelle que soit la température, y compris dans les stades climatisés. Des pauses qui sont loin de faire l'unanimité. pluie, de huées et de sifflets lors du match entre l'Angleterre et le Ghana pour une pause fraîcheur juste après un long arrêt de jeu alors que la température ne dépasse pas les 20 degrés. Les puristes du jeu estiment que le fractionnement des mi-temps en quart-temps dénature les matchs. Et au-delà du bien-être des joueurs, certains perçoivent ces pauses hydratation comme une vaste opération commerciale. Car chaque fois que l'arbitre siffle l'arrêt du jeu à la 22e minute de chaque mi-temps, c'est une coupure publicitaire. Ce dont s'est défendu Gianni Infantino, invoquant l'équité entre les équipes.
La raison principale est la chaleur. Mais nous devons aussi comprendre que dans une compétition comme la Coupe du Monde, disputée sur 39 jours, avec des équipes jouant potentiellement 8 matchs au cours de ces 39 jours, avoir un moment de repos est extrêmement important. Ce qui compte encore plus pour nous, c'est de veiller à ce que toutes les équipes, dans chaque match, jouent dans les mêmes conditions. Et il est très difficile d'accepter qu'un entraîneur puisse avoir l'opportunité d'influencer un match en effectuant des ajustements simplement parce qu'il fait plus chaud, alors que dans un autre match où la température est légèrement plus basse, le même entraîneur n'a pas la même opportunité.
Ces accusations de foot business sont alimentées par les prix des billets, point noir de ce mondial. Dès la mise en vente des premiers billets, une place pour un match de poule en catégorie 4, censée être la moins chère, ne se vend pas à moins de 100 euros. Pour les quarts de finale, pas de billets à moins de 400 euros. Et pour la finale, les prix se sont carrément envolés. Les billets les moins chers sont proposés à partir de 4 451 euros. Pour le plus cher, comptez 188 000 euros. L'explication de ces tarifs qui flambent, c'est la tarification dynamique, l'une des autres nouveautés de ce mondial. En gros, le prix d'un billet évolue selon l'offre et la demande. Plus les réservations pour un match s'enchaînent, plus les tarifs augmentent. Le Mondial 2026 a permis à la FIFA de dégager un chiffre d'affaires spectaculaire de 11 milliards d'euros sur la période 2023-2026, près du double de la période précédente. Une Coupe du Monde déjà économiquement et politiquement historique. La Coupe du Monde de football 2026 pourrait rester comme l'une des plus chères de l'histoire. Mais pour Donald Trump, ce mondial est avant tout une réussite, si ce n'est la plus grande.
J'ai trouvé que la FIFA était incroyable. Il n'y a jamais rien eu de comparable. Probablement en termes d'événements, sans même parler du soccer ou du football, comme vous préférez l'appeler. Mais je pense que c'était incroyable. Ça a été 4 fois plus grand que n'importe quel mondial organisé. Et c'est probablement environ 5 fois en fait, me disent-ils aujourd'hui. Nous sommes donc très fiers de notre pays. Nous sommes très fiers du travail accompli par tout le monde. Nous félicitons Gianni Infantino et toute son équipe pour le travail incroyable qu'ils ont fait. Mais ce fut l'un des plus grands événements de tout type jamais organisé.
Bonjour, c'est Guir Lazeri.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du sport au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles à Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes aussi chroniqueur au Nouvel Obs. On va d'abord revenir sur ce qui est sans doute la plus grosse polémique de ce mondial, l'annulation du carton rouge infligé au joueur américain Folarin Balogun après que Donald Trump a appelé le président de la FIFA. L'ingérence du président américain, c'est une première dans un mondial ?
Alors, d'un président américain, oui pour le coup, mais d'une autorité politique, non. Ça avait déjà été fait en 1962, Coupe du Monde au Chili. Le président brésilien avait justement demandé à ce qu'on diffère le carton du joueur Garrincha, grande légende du football brésilien, en vue de la finale. Donc non, ce n'est pas une nouvelle. Néanmoins, le mode et surtout la résonance de cet acte-là dans le contexte de cette Coupe du Monde est très significatif, au sens où déjà, d'une part, Donald Trump s'est un peu amusé hein, sur ce cas de figure-là. Il avait répondu avec une forme de légèreté « Oui, j'ai appelé Gianni Infantino sans problème ». Donc déjà, il y avait déjà cette tournure et cette théâtralité autour de cette action qui était déjà très marquante. Et puis ça s'inscrit aussi dans tout un tas de faits durant ce mondial qui, effectivement, pose sans doute problème concernant effectivement l'organisation d'une telle compétition sur ce territoire.
L'UEFA a estimé qu'une ligne rouge avait été franchie, c'est le cas ?
Une ligne rouge a été franchie, alors l'UEFA, oui, sans doute, parce qu'elle se cantonne aussi à avoir une vision très sportive, hein, donc une vision en termes d'organisation de matchs, mais aussi d'équité, donc de loi, ce qui régule en fait finalement le spectacle sportif. Il y a d'autres choses qui ont été franchies avant, qui sans doute devait nous alerter, il nous alertait, hein, parce que ça, cette information était relayée, il y a tout un tas de faits qui, effectivement, étaient déjà, s'inscrivaient déjà comme une forme de dépassement de fonction vis-à-vis du président de la République et une forme d'ingérence aussi vis-à-vis de la FIFA.
Vous le disiez, il y a déjà eu un cas d'ingérence avec le Brésil, mais est-ce que là, ça crée un précédent? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour les prochaines Coupes du Monde à venir?
S'inquiéter, c'est un grand mot. Je pense que c'est effectivement que ça marque un tournant dans le champ médiatique. L'idée d'ingérence politique dans le cadre du sport, d'organisation sportive, ça a toujours existé. C'est pas neuf. Hein. Il faut penser aux JO de 1936 en Allemagne, qui sont quand même un événement assez marquant. Il y a d'autres faits historiques, hein, bien sûr. Il y a eu des dictatures qui ont organisé des grandes compétitions et dans lesquelles finalement l'empreinte finalement du cadre politique a été très impressionnante et a marqué les compétitions, les joueurs, enfin tout le cadre sportif. L'idée présente, c'est que en fait, il y a une forme de capitalisation sur cette chose-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président américain un peu se nargue de vous faire ça. Il n'y a plus de secret, en quelque sorte. C'est quelque chose de diffus, plutôt de visible. Et c'est en ça, peut-être, qu'il y a un tournant. C'est cette forme de visibilité très accrue de ces actions-là. C'est-à-dire que le président ne se cache pas du tout de faire ça. Il exprime clairement que voilà, il y a des règles, que c'est lui qui appliquera les règles et pas la FIFA, que la FIFA peut faire ce qu'elle veut et lui, ben, contournera tout ça. Donc, il y a quand même cette idée, effectivement, que ça devient visible et surtout, ça alimente aussi tout un électorat politique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée de bénéficier, de créer, de susciter des bénéfices politiques par ces actions-là. Et la FIFA est devenue un peu un terrain de jeu. Voilà.
Les controverses autour de ce mondial ont éclaté avant même le coup d'envoi. Vous en parliez, l'arbitre somalien qui a été refusé du territoire américain, ses équipes internationales fouillées dès leur descente d'avion. Est-ce que cette Coupe du Monde est l'un des événements sportifs les plus controversés de l'histoire de ces dernières années?
Alors ces dernières années, il faut voir à partir de quand. Depuis le 21e siècle sans doute, hein, depuis effectivement les précédentes compétitions avaient suscité des tollés, je pense notamment au Qatar en 2022, et avaient suscité une forme de défiance vis-à-vis de plusieurs autorités. Mais néanmoins, il y avait cette idée que le Qatar, en quelque sorte, plus ou moins se soumettait aux règles de la FIFA et par finalement l'organisation de cette compétition, assouplissait en quelque sorte son régime politique, son ordre social. Alors que là, non. Là, il y a vraiment l'idée, à l'inverse, que la FIFA peut faire ce qu'elle veut. Nous, les États-Unis, on aura le dernier mot, notamment, je dis les États-Unis dans sa globalité, mais surtout, en fait, le gouvernement Trump fait ce qu'il veut, au contraire, assoit sa domination politique. Et ça, c'est peut-être un des tournants. Et en fait, c'est très paradoxal, parce que à la fois, c'est un tournant sur le plan de la visibilité, sur le fait que ça soit une compétition qui soit malmenée par les États-Unis, mais en même temps, Donald Trump, dans son historicité politique, a toujours fait ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est toujours servi du sport comme une caisse de résonance politique. Et ça l'inscrit un peu différemment dans l'ordre des présidents américains, qui, au contraire, eux, faisaient du sport un élément d'émancipation sociale. Au contraire, Donald Trump a une vision très, déjà économique, très business du sport. Et en plus, il s'en sert véritablement comme un outil politique à des fins de conquête du pouvoir et aussi d'imposition de son idéologie. Alors, une logique qui est effectivement qu'on peut juger discriminatoire, bien entendu, mais du coup, qui effectivement s'applique à la politique. Et la FIFA, en l'occurrence, bah, s'assoit finalement face au pouvoir trumpien. Voilà.
Et alors justement, sur l'aspect business, c'est l'autre controverse de ce mondial 2026, l'aspect financier. D'abord, les tarifs des billets qui se sont envolés avec la tarification dynamique. Et puis, il y a les pauses d'hydratation, l'une des nouveautés de ce mondial, des pauses de 3 minutes dans tous les matchs, au milieu de chaque mi-temps. Est-ce que c'est l'illustration des dérives du foot et du business qui auraient pris le pas sur le sport?
Mais en fait, ça a toujours été un peu comme ça. La FIFA est réglementée différemment. Elle fonctionne sur un droit suisse et dans lequel, finalement, elle peut capitaliser. Le but, quand même, essentiel, on parle de la FIFA, mais le CIO, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de générer des gains financiers. Hein, et ça passe notamment par la visibilité. Ça passe pas simplement, effectivement, on parlait des places du billet, mais c'est pas ça qui rapporte totalement à la FIFA. Hein. C'est vraiment la diffusion. C'est des spectacles. La Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde, c'est vu par 2-3 milliards de personnes. Donc, c'est quand même énorme. Et effectivement, il y a quand même cette idée que on va aussi se servir du contexte américain où eux ont une autre socialisation au sport. C'est-à-dire pour eux, la question des pauses d'hydratation et des pubs pendant les pauses d'hydratation ne pose aucunement problème. Ils ont une consommation sportive qui est totalement différente du modèle européen, en quelque sorte. Et il y a quand même cette idée un peu de se servir un peu de cette configuration-là du sport américain pour, en quelque sorte, essayer de effectivement faire des bénéfices et profiter, capitaliser sur cette Coupe du Monde. Et ça dénote effectivement avec une forme d'habitude de consommation du spectacle sportif. Forcément, oui, ça met sans doute à mal les populations, notamment européennes ou latino-américaines, qui sont plus légitimes en quelque sorte, qui consomment du football beaucoup plus régulièrement et qui, eux, elles ont adapté leur mode de vie aussi à ça et puis qui se voient en fait infliger des pubs en permanence. Effectivement, la FIFA cherche quand même nécessairement à générer du gain quand même de manière assez significative, et c'est en ce sens aussi qu'elle laisse Donald Trump, du moins son gouvernement, faire un peu ce qu'elle veut et leur accorde des passe-droits.
Et pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment sur la diffusion, le nombre d'équipes nationales est passé de 32 à 48 dans ce mondial. Il est même question d'élargir encore ce nombre à 64 dès 2030 pour la prochaine édition. Est-ce que c'est ça la vraie motivation de cet élargissement ?
Alors, il y a au fond une motivation sportive aussi, hein. C'est-à-dire que cette idée de 48 équipes, elle posait problème parce qu'il y avait effectivement il y avait une densité de matchs quand même assez impressionnante, c'était un spectacle régulier. Néanmoins, on peut quand même souligner le fait que il y a des équipes qui en tirent leur épingle du jeu, notamment des sélections qui sont très peu visibles sur la scène mondiale. Enfin, il faut penser aux sélections africaines qui ont fait des parcours incroyables, qui ont su alimenter la table très sportive, qui ont fourni un spectacle assez considérable. On peut penser au match du Cap-Vert contre l'Argentine qui était fabuleux, les par la suite, enfin des sélections qui sont très très peu visibles. Donc du coup, effectivement, il y a quand même un gain sportif assez incroyable, mais il faut pas non plus se leurrer, et il faut aussi effectivement se dire que cette configuration là de ce spectacle avec autant d'équipes repose avant tout sur des gains financiers, c'est-à-dire l'idée de produire du spectacle en continu, plutôt que vraiment sur l'émancipation et la diffusion des élites africaines sur la scène mondiale.
Et l'autre aspect, c'est la question environnementale. Le Mondial 2026 s'annonce comme le plus polluant de l'histoire, avec les déplacements en avion des équipes et des supporters entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Est-ce que le football va encore pouvoir continuer à faire comme avant, comme s'il n'y avait pas une urgence climatique ?
Eh bien non, en fait, mais ça c'est le propre de toutes les organisations sportives, hein. Mais le souci, c'est qu'il y a une mouvance, un élan qui ne va pas dans ce sens-là, hein. C'est évident, on pense aux Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques d'été, enfin, d'hiver qui vont se dérouler en France. On pense effectivement au fait que les événements sportifs globaux génèrent un trafic aérien considérable. Le fait de déplacer des populations, c'est un coût écologique fou. En fait, les organisations n'ont pas conscience de ça, vraiment pas. Il y a quand même un intérêt économique qui domine. Avant, on pensait à long terme, mais je pense qu'à court terme, ça risque de poser effectivement problème sur plein d'aspects, ne serait-ce que par aussi la promesse qu'offre la FIFA, c'est-à-dire de diffuser un match. Alors, il faut se souvenir que, par exemple, pendant la pause, il y avait une longue pause hier à la mi-temps, ils avaient inscrit Love sur tout le terrain, et il y a quand même l'idée derrière la FIFA, comme étendard, l'idée de rassembler les peuples, de générer de la paix, de générer de la cohésion entre les nations. Là, ce message sera totalement mis à mal, parce que la question écologique va aussi générer des questions de disparité en termes à la fois d'équité sportive, en termes de d'accès au niveau, d'accès au spectacle sportif. Et la FIFA, en maintenant ce cap, on peut dire un peu mortifère sur le plan à la fois écologique et social, se tire une balle dans le pied, sans mauvais jeu de mots.
Voilà. Pour l'édition 2026, c'est donc l'Espagne qui a remporté le trophée, mais ce mondial n'a pas délivré que des enseignements sportifs. Dans quelle mesure un événement de cette ampleur reflète les bouleversements du monde ?
C'est très particulier, parce que ce qui se produit dans tel événement où les nations sont réunies, c'est pas tant un reflet, mais c'est plutôt une projection des imaginaires sociaux. C'est-à-dire qu'on va projeter dans l'équipe espagnole ce à quoi on tend, c'est-à-dire qu'on va voir en elle les valeurs auxquelles on adhère, et inversement, on va aussi mettre en exergue ce qu'on déteste. La question qui s'est posée durant cette Coupe du Monde, c'est qu'effectivement, on a vu le pouvoir politique prendre une place considérable dans l'organisation sportive. On avait des institutions sportives qui avaient des grandes promesses, l'idée d'aller au-dessus des nations et de proposer un autre rapport, d'autres interactions entre les nations, entre les peuples. Et là, finalement, on se rend compte que, de manière assez visible, hein, parce que il y avait toujours eu plus ou moins des manipulations, hein, le sport est politique, donc forcément il est influencé. Mais néanmoins, là, de manière assez visible et assez constante, on a quand même l'impression qu'effectivement le pouvoir politique a pris l'assaut et on fait des compétitions sous le joug de tel ou tel groupe, sans qu'on se pose véritablement de questions. Ouais.
Le titre sera remis en jeu dans 4 ans, en 2030, lors du prochain mondial qui se tiendra en Espagne, au Maroc et au Portugal, à 48 ou 64 équipes. Merci Séguir Lazri d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast et à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer. Et merci à vous d'avoir écouté Le Titre à la Une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.